Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Je vous propose aujourd'hui de rester en compagnie des chevaliers de la table ronde. Une façon de replonger dans notre terroir si riche en légendes de toutes sortes. Mais l'épopée du roi Arthur fait partie de ces grandes sagas, comme auraient dit nos amis finlandais, de ces grandes sagas qui marquent les mémoires. Je précise quand même que j'utilise pour cela l'excellente prose de la romancière Jacqueline Mirande. Et donc aussi Perceval qui veut rejoindre la cour du roi Arthur. Et à peine arrivé, il séduit une jeune fille et met en colère un chevalier et le chevalier que... Et l'arrivée de Perceval à la cour du roi Arthur va se traduire dès le départ par un duel entre lui et que. Alors, évidemment, Perceval va gagner. Sinon, il ne ferait pas partie des chevaliers, des futurs chevaliers de la table ronde. Que était si gonflé de colère qu'il aurait aimé le tuer sur le champ, mais il se contint à cause du roi qui disait d'un ton désolé, quel dommage d'avoir partir ce garçon, d'avoir laissé partir ce garçon sans même connaître son nom. Il ignore tout des armes, mais si on lui avait appris l'emploi de la lance, de l'écu, de l'armure, quel bon chevalier il aurait fait. Perceval ne se tarda pas à commander dans la forêt. Il alla droit devant lui par un endroit découvert que bordait une rivière. Il y avait là un château de belle allure, ceint de murs flanqué de quatre tours fortes. Un pont-levis, un prud'homme vêtu d'hermine se promenait sur le pont. Perceval s'avança et le salua. Ils commencèrent à parler. Le prud'homme qui se nommait Gornement de Gort prit en amitié le jeune Perceval. Son ignorance en matière de chevalerie le désola. Il décida de lui apprendre à se servir de ses armes, à tenir sa lance, à éperonner, retenir son cheval, à combattre avec l'épée, bref, à devenir un parfait chevalier. Il garda Perceval un mois entier chez lui, mais déjà, après trois leçons, il s'émerveillait de le voir si agile, si doué. Perceval était jeune, l'aventure le tentait. Alors, son hôte décida qu'avant de partir, Perceval serait adoubé chevalier, ici même et par lui. Perceval se vêtit des habits à la place de ceux qui portaient. Gornement se baissa, lui chaussa les perrons droits comme la coutume le voulait. Ensuite, il prit l'épée, la lui mit au côté, lui donna à la collade en disant « Je vous confère l'ordre de chevalerie qui ne souffre aucune bassesse. Ne tuez pas votre adversaire vaincu s'il vous crie merci. » Gardez-vous de trop parler et des hommes, dames ou demoiselles que vous verrez dans la détresse. Et ne manquez pas de prier Dieu pour votre âme. Ma mère m'a parlé comme vous le faites, dit Perceval. Dites désormais que c'est de celui qui vous a doublé chevalier que vous le tenez. Dieu vous préserve et vous conduise. Vous êtes impatient de partir, allez donc et... Adieu. Perceval se chercha tout le jour dans la forêt solitaire. Il s'y trouvait chez lui mieux qu'en traversant. La nuit venait lorsque il aperçut un château fort, bien situé, mais hors des murs, on ne voyait que la mer, l'eau et la terre. Perceval passa un pont fort branlant et frappa du poing une porte. Une fille maigre et pâle parut à la fenêtre. « Qui appelle ?»« Un chevalier qui demande l'hospitalité pour la nuit. » La fille disparut et quatre hommes d'armes à l'aspect misérable vinrent ouvrir la porte. Perceval les suivit à travers des rues désertes bordées de masures croulantes. Ni moulin pour moudre, ni four pour cuire, nulle trace d'homme ou de femme, de couvent abandonné. Ils arrivèrent à un palais couvert d'ardoises. Un valet mena le cheval à une étable sans blé ni foin, à peine un peu de paille. Un autre conduisit Perceval jusqu'à une belle salle où deux hommes d'un certain âge, l'air affaibli, vinrent à sa rencontre. Une jeune fille les accompagnait. Ses yeux étaient riants et clairs, ses cheveux d'un blond d'or fin flottait sur ses épaules, couverte d'un manteau de pourpre sombre, étoilé de vert et bordé d'hermine. Plus belle que cette fille, il n'en fut jamais. Son nom était Blanchefleur. Elle prit Perceval par la main, le conduisit dans une large chambre au plafond tout sculpté, le pria de s'asseoir à côté d'elle. Acceptez notre maison telle qu'elle est. Rien n'y abonde, hélas, vous le verrez. Nous avons tout juste 6 miches de pain quand saint homme de prière, qui est mon oncle, m'envoya pour le souper de ce soir. Pas d'autres provisions, sauf un chevreuil qu'un de mes sergents tua ce matin.
Thank you.
Là-dessus, la commande qu'on mette la table, tout s'assoit, le repas fut bref. Perceval alla se coucher, l'enfer encore au ventre, mais les draps étaient bien blancs, l'oreiller moelleux, la couverture riche. Il fut réveillé par des pleurs tout proches de son visage. Surpris, il vit Blanchefleur sans compteur à genoux devant son lit. Un court manteau de soie écarlate juste jeté sur sa chemise. Belle, qu'y a-t-il? Pourquoi êtes-vous venue ici? Ne me jugez pas mal. Voilà un long hiver et un long été que le sénéchal de Clamadeux des îles de perfide Enguiguerrand nous assiège. Il ne reste que 50 chevaliers sur les 300 qui tenaient ici là. Garnison. Les autres ont péri ou ils sont en prison. Nos vivres, vous l'avez vu, ils sont épuisés, il n'y en aurait pas pour le déjeuner d'une abeille. Demain, nous rendrons le château et je serai livré avec, mais ils ne me prendront pas vivant, je me tuerai avant. Voilà ce que je suis venu vous dire. La fine mouche savait bien ce qu'elle faisait. Aucun chevalier ne pouvait supporter d'entendre telles paroles. Percival s'écria, « Séchez vos pleurs, belle amie. Moi, demain, je vous défendrai, je provoquerai en combat singulier Enguiguerrand, le sénéchal, je le tuerai. » Le lendemain matin, il demanda ses armes, s'en revêtit, monta à cheval et sortit du château. Enguiguerrand était assis devant sa tente parmi les assiégeants. Il vit venir Perceval, s'arma, sautant en s'écria, « Viens-tu chercher la paix ou la bataille ?» Répond le premier, « Que fais-tu ici ? Tuer les chevaliers, ravager la terre ? Je veux que le château se rende. » Et la fille, « Va au diable, toi et tes paroles !» Perceval a baissa sa lance et les deux adversaires se précipitèrent l'un sur l'autre. De toute la vitesse de leur cheval, le combat fut long, furieux, mais à la fin, le sénéchal s'abattit sur le sol. Il criait, « Pitié, épargne-moi, ne sois pas si cruel !» Perceval se rappela le conseil du prud'homme Gornement et il hésita, « Si tu as un seigneur, envoie-moi à lui. » Reprit le sénéchal, je lui dirai ta victoire et m'en remettrai à lui de mon sort. Alors, tu iras chez le roi Arthur. Tu célébreras le roi pour moi, tu te feras montrer la jeune fille qui fut frappée par queue pour avoir ri en me voyant. À elle, tu te rendras prisonnier, tu diras que j'espère ne pas mourir avant de l'avoir vengé. Perceval rentra au château sous les acclamations des assiégés et Blanchefleur dès lors l'aima. Cependant, Clamadeux, croyant le château pris à court, emmena avec lui 400 chevaliers, 1000 sergents et les vite détrompés. Alors, Ils sont de ruses déloyales, ils dissimulent ces hommes, ne montrent que 20 chevaliers. Perceval, les hommes de Blanche Fleur, sûrs de vaincre, car ils sont plus nombreux, ouvrent des portes et chargent, mais à peine se croient-ils victorieux que le croc des troupes de Clamadieu surgit, le combat devient trop inégal, il leur faut se replier dans le château. Harcelés, poursuivis, ils referment à grand-peine les portes sur les assaillants. Par miracle, ils parviennent à faire tomber l'une d'elles sur les jambes en dessous, elle écrase et tue tous ceux qu'elle atteint dans sa chute. Clamadieu ravale sa colère et renonce à poursuivre. À quoi bon faire encore tuer ces hommes quand demain la faim obligera les assiégés et Blanchefleur à se rendre. On dresse donc les tentes pour camper. Mais ce même jour, un grand vent avait chassé sur la mer un bateau chargé de blé, de vin, de bacon salé, de bœufs, de porcs prêts à être tués. Il aborda intact, droit, devant le château. On imagine la joie de tous. Les marchands, leur cargaison sauvée, faisaient en l'avendant une bonne affaire. Les assiégés pouvaient enfin manger. Clamadieu était fou de fureur. Inutile désormais d'espérer réduire le château par la famine. Continuer le siège ne servait à rien. Il décida d'envoyer un message au château. Il proposait au chevalier à l'armure vermeille qu'il avait vaincu et fait prisonnier, en guinguant son sénéchal, un combat sel-à-sel. L'affrontement serait fixé au lendemain, avant midi. Perceval accepta, malgré les supplications de tous, les prières de Blanchefleur, entrecoupées de baisers, car c'est de là qu'on sait à beaucoup s'aimer. Le lendemain, à l'heure dite, seul sur la lande, Clamadieu et Perceval s'affrontèrent à la lance, puis à l'épée. À la fin, Clamadieu dut s'avouer vaincu et, tout comme son sénéchal, accepter les mêmes conditions. Il prit à son tour le chemin de la cour du roi Arthur. Il arriva, comme la reine Guenièvre, le roi et toute leur suite revenaient n'entendre la messe, car c'était une Pentecôte. Que était là? Et la fille au beau rire, et le fou. En Guingueron, qui était arrivé la veille, courut au-devant de son seigneur pour l'accueillir, tous deux racontèrent les prouesses du chevalier à l'armure vermeille dont personne ne savait le nom, et transmirent son message. Je l'ai dit. Le fou sauta de joie. Malheur à queue, le chevalier lui rompa le bras et la clavicule et toute une moitié de dents. Il devra porter son bras pendu à son cou. Le roi Arthur, lui, s'attrista de n'avoir pas su garder à sa cour ce garçon gallois inconnu, à demi-sauvage, qui était devenu si vite un si bon chevalier. Thank you. Perceval avait cheminé tout le jour sans rencontrer âme qui vit pour lui indiquer sa route. La nuit allait bientôt tomber. À la descente d'une colline, il arriva à une rivière. L'eau semblait profonde et rapide. Il n'osait s'y engager. À ce moment-là, il vit une barque qui descendait le courant. Deux hommes y étaient assis. Celui qui était à l'avant, pêchait à la ligne et amorçait son hameçon, un petit poisson. Perceval les salua et demanda « Y a-t-il un gué ou un pont sur cette rivière ?»« Non, » répondit le pêcheur. « Autant que je sache, à bien lieu en amont ou en aval, il n'en existe pas, ni de barque assez forte pour passer un cheval. » « Au nom de Dieu, » dit Perceval, « bien ennuyé, dites-moi, je vous prie, où je pourrais trouver un logis pour la nuit. »« Chez moi, » dit le pêcheur, « je vous hébergerai, monté par cette brèche. Quand vous serez en haut, vous verrez devant vous, dans un vallon, la maison que j'habite, près de la rivière et des bois. » Perceval lui obéit, mais arrivé en haut de la butte, il ne vit rien que le ciel et la terre. Furieux, il se mit à maudire le pêcheur déloyal qui avait compté descendre et dès soudain, tout lui apparut. Le vallon est la cible d'une tour carrée flanquée de deux tourelles avec un logis par devant. Perceval, tout content, y courut, ne traitant plus le pêcheur de tricheur, de déloyal, de menteur. À peine s'était-il engagé sur le pont de vie, que quatre valets vinrent vers lui. Deux lui enlevèrent son armure, le troisième emmena son cheval, le quatrième lui mit sur les épaules un manteau d'écarlate tout neuf et le guida jusqu'à une grande salle où flambait un feu de bûche sèche qui jetait une flamme claire. Un homme aux cheveux presque blancs était assis sur le lit. C'était visiblement le chasseur du lieu. Le pêcheur de la barque. Ami, dit-il à Perceval qui le saluait, ne m'en veuillez pas. Je ne puis me lever pour vous accueillir car mes mouvements ne sont pas aisés. Approchez-vous sans crainte. Asseyez-vous près de moi et dites-moi d'où vous venez. Tandis qu'il parlait, un valet entra portant une épée qui pendit au vieil homme. Votre nièce, la blonde et belle, vous envoie ce présent. Celui qui forgea cette épée n'en fit que trois et n'en forgea plus d'autres, car il est mort. Elle vous prie de le donner à celui qui vous paraîtra le plus digne de la porter. Sur le champ, le vieil homme remit l'épée à Perceval. Je désire que vous l'ayez, ami. Prenez-la. Perceval remercia et prit l'épée. Elle était légère, faite d'un acier dur, avec un pommeau en or et un fourreau d'or froid de Venise. Une arme superbe. Soudain, à la clarté des flambeaux qui illuminaient la salle, Perceval vit un jeune homme sortir de la chambre voisine. Il tenait une lance éclatante de blancheur. Une goutte de sang perlait à sa pointe et coulait jusqu'à la main du jeune homme. Il traversa la salle, passant devant Perceval et son hôte et disparut. Perceval dut se retenir pour ne pas poser de questions tant ce spectacle était étrange, mais il se souvenait du conseil de Gornement de Gore. Qui ne sait tenir sa langue manque souvent aux lois de la courtoisie. Il resta donc muet. Peu après, de la même chambre voisine sortirent deux beaux hommes, portant chacun un chandelier d'or où brûlaient des cierges. Derrière eux marchait lentement une très belle jeune fille, richement vêtue. Elle tenait entre ses mains une coupe en or garnie de pierres précieuses qui rayonnait comme un soleil. L'étrange cortège passa lui aussi devant le roi, devant le lieu où se tenait Perceval et le seigneur du lieu. Perceval, de plus en plus étonné, dit cette fois se faire violence pour ne rien demander, mais toujours par peur d'être impoli, il garda le silence, puisque son hôte ne lui donnait aucune explication. Il pensa que le lendemain, il interrogerait les habitants du château. Pas servir bientôt, se composa des mets les plus rares, des vins les meilleurs. Pour la veillée, on apporta une profusion de dattes, de figues, de noix muscades, de grenades, de pâtes au gingembre, accompagnées de nouveaux vins au piment, sans miel ni poivre. Perceval était émerveillé, n'était pas habitué à pareil régime. Après avoir longuement conversé, le vieil homme dit « Ami, il est l'heure du coucher. Vous dormirez ici quand il vous conviendra pour moi. Je regagne ma chambre. Mais il faut qu'on me porte, je ne peux me mouvoir seul. » Quatre hommes robustes prirent la courte de pointe sur laquelle était assis Lamennais. Perceval resta seul. Avec deux valets qui le dévêtirent, le mirent au lit et dormit jusqu'à l'aube. Mais quand il ouvrit les yeux, il ne vit personne près de lui. Celui qui passa seul prit ses armes, frappa en vain à diverses portes toutes fermées. Il appela, pas de réponse. Il sortit de la salle sur son cheval, le vit tout scellé. Ni palefrenier ni valet, tout le château semblait étrangement vide d'habitants. Le pont-levis était baissé, Perceval monta à cheval, prit son écu, sa lance et partit, se demandant où tous les gens qu'il avait vus la veille avaient bien pu passer. Il remarqua sur un sentier des traces toutes fraîches de chevaux et les suivit, pensant trouver ceux qu'il cherchait. Il s'engagea dans la forêt, toujours suivant les traces. Soudain, il vit sous un chêne une fille qui pleurait. Elle leva les yeux, l'aperçut et « Vous semblez avoir passé une bonne nuit. Votre cheval est lavé, étrié, pourtant. À 25 lieues à la ronde, il n'y a pas une maison. Vous trompez, belle, il n'y en a qu'une, tout près d'ici, excellente. » La fille l'interrompit. C'est donc vous qui avez été l'hôte du riche roi pêcheur qui fut blessé dans une bataille, perdu l'usage de ses jambes. Il ne peut plus, pour se distraire, que se faire porter dans une barque, s'en aller pêcher sur l'eau. Il vous a fait grand honneur en vous recevant. Dites-moi, l'avez-vous vu, la lance? Non, la pointe saigne. Certes, oui, je l'ai vue. Avez-vous demandé pourquoi? Elle a saigné. Je m'en suis gardé. Dieu, vous avez mal fait la coupe. Non, mais Graal, l'avez-vous vu portée par une jeune fille qui suivit deux valets tenant un chandelier? J'ai vu tout cela. Avez-vous demandé qui ils étaient, où ils allaient? Pas un mot n'est sorti de ma bouche. Ah, Dieu! Comment vous nommez-vous, ami? Perceval de Galois. Mieux vaudrait dire à présent, Perceval, l'infortuné, c'est sur vous que je pleure. Que n'avez-vous posé ces questions? Le roi eut retrouvé l'usage de ses jambes. Vous seriez entré en possession du Graal. Je n'en peux dire plus. Ni sur la lance, ni sur la coupe, un autre vous l'enseignera. Adieu. Elle se remit à pleurer sous le chêne et Perceval poursuivit sa route vers la cour du roi Arthur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Thank you.
Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.